Je donne la parole immédiatement à Monsieur David Mendez Yepes, l'ancien président de la FEF, et je lui donne immédiatement la parole pour s'approprier l'héritage d'Allende. Peut-être quelqu'un va nous dire avec qui on va faire cette révolution.
Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde entend bien ?
Non, poussez sur le
bouton. Il faut vraiment appuyer sur
là,
le
petit bouton là.
Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, donc, je me présente, c'est David Mendez Yepes. J'étais président de la FEF, non pas en 2011-2012, c'est un détail, c'était en 2012-2013, et président de la GEL avant. Je vous dis tout directement, je ne suis pas sociologue du tout, je ne suis pas un spécialiste de la question chilienne non plus. Je termine mes études d'économie et d'éthique, mais j'ai eu la chance, dans mon mouvement étudiant, de pas mal travailler avec les représentants étudiants chiliens, de les accueillir ici et de travailler aussi en solidarité, on va dire, internationale, et de partager surtout les idéaux qui les mobilisent aujourd'hui dans leur pays. Alors, suite aux interventions des professeurs de Beust et M. Bajoy, on m'a invité à réfléchir sur la question de comment la jeunesse aujourd'hui peut s'approprier l'héritage d'Allende. Alors, comme je disais, ici ça va plutôt être un témoignage de ce qu'on peut percevoir dans, je dirais, la mobilisation sociale que peut être le mouvement étudiant. Et aussi, j'ai essayé de retourner un peu, enfin, de lire, et j'ai fait une petite recherche sur le projet éducatif de l'Union Populaire et en quoi est-ce qu'il peut faire écho, en quoi est-ce qu'il est très contemporain par rapport aux enjeux aujourd'hui qui nous unissent, les étudiants, je veux dire, autant européens que latino-américains. Alors, mise en contexte un petit peu symbolique, le 11 septembre 1973, l'inoubliable chanteur Víctor Jara est allé vers son milieu de travail, qui était donc l'Université Técnica del Estado à Santiago du Chili. Il devait y chanter pour l'inauguration d'une exposition au cours de laquelle le président Salvador Allende allait adresser un discours à toute la nation. Mais à ce moment-là, les militaires ont entamé leur coup d'État, Allende est décédé, ils ont aussi encerclé l'université et arrêté tous les étudiants et les professeurs. Víctor Jara fut ensuite torturé et assassiné. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de reconstruire le message qu'Allende aurait pu adresser ce jour-là, comme il était prévu. Pour le faire, je vous propose de reprendre les paroles des acteurs de cette époque-là. Je vais donc reprendre quelques points du programme de l'Unité Populaire sur l'éducation. Mais avant ça, je vous en faites pas, ce ne sera pas très long, parce que comme je vous disais, je ne suis pas loin d'avoir l'expertise des profs d'université qui ont parlé avant. Mais j'aurais voulu partager quelque chose avec vous que je trouvais assez symbolique et qui peut tout à fait inspirer la jeunesse aujourd'hui qui s'engage pour changer la société. C'est le fait que Inti Illimani, un groupe très connu, a fait un CD donc, qui s'appelle Canto al Programa, hein, donc c'était un chant au programme Union Populaire, entre autres, et en tout cas, qui avait comme volonté aussi de pouvoir mettre une dimension artistique et donner du sens à toute la lutte qui avait lieu à ce moment-là. Cette chanson s'appelle... je vais voir si ça va marcher, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de projecteur, donc on va faire un... Certes, pas mal d'entre vous comprennent l'espagnol, non ?
Oui.
Madame Morelli, je vois que vous parlez très bien espagnol.
Ne gaspillez pas vos minutes.
Je ne gaspille pas mes minutes. Oula.
Ah oui ?
Je serai plus court que les deux autres, vous en faites pas. Donc je vais mettre, passer vite fait la chanson donc, qui s'appelle « Vals de la educación para todos ». Et donc si vous pouvez un peu vous imprégner de ça, c'est donc en synthèse, un peu de manière un peu imagée, le programme de l'Union Populaire à ce moment-là. J'espère que ça va marcher avec le micro. Et c'est où ça ? Est-ce que quelqu'un sait de où sort la musique dans un Mac ?
Tendremos educación para todos nuestros hijos y los alimentaremos para que crezcan sanitos. Ahora desde pequeñitos tendrán deporte y gimnasia, porque aquí necesitamos cuerpo sano y mente sana, porque aquí necesitamos cuerpo sano y mente sana. Y para que los eduquen obreros y campesinos, campesinos tendrán mejores salarios con este proceso lindo.
No hay que conformarse solo con los niños chicos,
porque ahora educaremos a los que son mayorcitos, porque ahora educaremos a los que son mayorcitos.
Voilà, pour la suite de la chanson, je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a une belle vidéo que j'aurais voulu vous montrer. J'ai voulu vous faire écouter un petit peu ça parce que je trouve que c'est assez symptomatique de quel était le projet éducatif de l'Unidad Popular et d'Allende particulièrement, parce qu'en fait cette chanson est symptomatique de ce qu'il présentait. Il y a deux passages dans la chanson que je trouvais, toute la chanson est très bien, mais d'abord un passage qui est intéressant quand il a dit, si vous l'avez bien entendu, para que los eduquen obreros y campesinos tendrán mejores salarios con este proceso lindo. Et donc on associe directement le processus d'éducation à une forme de démocratisation de la société chilienne. On ne s'adresse pas aux étudiants en tant que tels, on s'adresse aux travailleurs, aux ouvriers, aux paysans. Et on associe le fait aussi que les conditions salariales pourraient s'améliorer dans ce beau processus. Et c'est important de voir que dans tout projet d'éducation d'AND, le social est vraiment transversal à l'éducation. Ce n'est pas un phénomène isolé qui formerait des automates, du prêt-à-penser, des répétitions, qui créerait des self-made men, en gros, on va dire du capital humain, comme on l'appelle aujourd'hui en économie, et donc créer de la main-d'œuvre, des cerveaux prêts à l'emploi. Je trouve que c'est très contemporain pour nous de voir que l'éducation était vue comme un phénomène social, parce qu'aujourd'hui, dans nos universités, et je le dis sur le respect de tous les professeurs ici, parce qu'il y a des gens bien partout, évidemment, mais on a tendance, en tout cas, mon expérience en économie, on a tendance à vraiment essayer de faire de nous des individus qui seraient self-made men, donc qui seraient auto-construits. C'est parce qu'en travaillant dur, on va réussir à avoir nos diplômes, etc., et qu'on va devenir une plus-value sur le marché de l'emploi, qu'on doit réussir à se professionnaliser un maximum, qu'on va réussir à devenir quelqu'un de bien. Et je pense que c'est important de pas tomber dans le romantisme non plus, de dire oui, faut plus être juste éduqué à la critique, mais par contre réussir à sentir qu'on fait partie d'un processus, je veux dire, culturel et politique qui permet et qui devrait améliorer les conditions de vie de tous, c'est important. Et dans le discours très impactant de Allende, c'était à l'université de Guadalajara, donc c'est un discours mythique où il parle à une assemblée d'étudiants et d'universitaires. Il leur dit, d'abord, il leur apprend un peu l'humilité en disant, voilà, vous êtes étudiant, vous regardez autour de vous combien sont fils d'ouvriers, combien sont fils de paysans, et donc, pour dire à quel point la route est longue encore pour démocratiser l'enseignement. Et par ailleurs, il dit aussi, pour ne pas rentrer dans le cliché, il dit vraiment, voilà, je préfère, donnez-moi un technicien, un homme qui maîtrise la technique, et je vous l'échange avec 80 socialistes et 50 communistes, je pense. Donc c'est dire à quel point il considérait que la technique était aussi importante. Et c'est pour ça que quand on vient à l'université ou en général à l'enseignement supérieur, il faut apprendre un métier. Mais il ne faut pas que ce métier devienne, je veux dire, l'aspect technique soit désincarné du social. Parce qu'effectivement, il faut des techniciens. Et je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas commencer à tomber dans le romantisme qui serait dire non, on veut juste être critique, etc. Il faut réussir à allier les deux. Mais je trouvais que la métaphore qu'il a utilisée, surtout qu'il avait un parterre de socialistes et de communistes, c'est quand même génial, d'être aussi arrogant, enfin pas arrogant, mais on va dire provocateur. Mais je pense que c'est ça. Il faut, aujourd'hui, l'enjeu de l'université, c'est de, j'en profite puisqu'on est une université prestigieuse qu'est l'ULB, il faut pouvoir allier l'aspect technique et la formation citoyenne de nos étudiants. Par ailleurs, un deuxième aspect qui était très présent dans ce que j'ai pu lire, c'est tout à fait incomplet, mais ce que j'ai lu par rapport à l'objectif de l'éducation de l'université populaire, l'objectif éducatif de l'unité populaire, qui était aussi centré sur l'homme nouveau. Alors bon, pas mal de gens, je pense, ont entendu parler du concept qui a notamment été popularisé en tout cas par Che Guevara, et il disait quelque chose, je vais essayer de le traduire, j'aurais dû évidemment le traduire avant. Pour nous, toute société doit être une école qui doit faire partie intégrante de cette grande école qui doit être la société. Mais pas l'éducation traditionnelle, introvertie, satisfaite d'un enseignement qui serait impartial, mais bien qui dépasse au-delà des murs de la société qu'on connaît aujourd'hui, parce que nous pensons à une école ouverte, pleinement intégrée au processus qui inquiète, qui préoccupe et qui intéresse la communauté. Ça, c'est Che Guevara, et on voit vraiment dans les propositions de l'unité populaire vraiment ça. Un autre aspect qui est directement lié, c'est le fait que les acteurs ont commencé à prendre parti aux décisions, en tout cas à faire partie du débat public sur les problématiques éducatives, avec notamment le Congrès national de l'éducation qui aura lieu en 1971. Je pense que c'est interpellant de voir qu'il y avait déjà cette volonté de faire participer les acteurs, même si ce n'est pas toujours ce qu'on rappelle. Je vais lire un passage du programme en tant que tel de l'Union populaire. Las profundas, les profondes transformations qui sont qu'emprenderán, les profondes transformations requises pour un peuple, pour qu'un peuple soit socialement conscient et solidaire, éduqué, pour exercer et défendre son pouvoir politique, ses capacités scientifiques, techniques, pour développer l'économie de transition et s'ouvrir massivement à la création. Les plus variés et les manifestations les plus variées de l'art et de l'intellect. Et donc directement, il y avait déjà cette ambivalence de dire voilà, il faut effectivement réussir à être indépendant des forces qu'on connaît, ce que lui appelle les forces impérialistes, etc. Réussir à créer cette économie de transition, à être autonome en collaborant avec évidemment les nations latino-américaines, tout en réussissant à créer cette émulation intellectuelle et artistique. Alors, un petit point avant de revenir à peut-être l'actualité en tant que telle pour nos étudiants et en général la jeunesse qui s'engage aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pourrait dire que c'est un projet très politique et en fait c'est une politisation de l'éducation. Évidemment, c'est une politisation de l'éducation quand on considère qu'elle doit faire partie d'un processus social de transformation. Mais ce n'est pas une politisation, je veux dire, forcément, qui serait partisane, etc. C'est un côté péjoratif aujourd'hui. Il faut tout dépolitiser, les services publics, tout ce qui existe, il faut dépolitiser. Parfois à raison, mais en tout cas ici, c'est important de comprendre que la politisation était liée au fait que les jeunes aient conscience du processus décisionnel qui existe aujourd'hui, qu'ils aient conscience, qu'ils aient les capacités critiques d'analyse pour être vraiment critiques de la réalité qui les entoure, qu'ils soient capables d'autodétermination, mais qu'ils soient surtout capables de remettre en question tous les jours leur quotidien, leur enseignement, etc. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, encore une fois, mais je le dis en toute humilité, et je ne connais pas tous les académiques du monde, pour avoir fait quelques universités et un an aux États-Unis, j'ai l'impression que malheureusement aujourd'hui on tend vers une neutralité, un peu un fantasme de neutralité. On essaye de nous former comme jeunes scientifiques, pour ceux qui veulent faire de la recherche, à approximer le plus objectif possible, sans avoir l'humilité de reconnaître que l'objectivité n'existe pas. Bon, je reprends mon cas en économie, il n'y a pas un modèle qui n'est pas super fort politiquement normé. Il a fallu longtemps, même ouais, le master, pour qu'une ou deux profs arrivent à me dire voilà, écoute, les prémices c'est ça, c'est XY. Et c'est logique, si dans l'hypothèse du modèle les gens sont individualistes, c'est normal qu'à la fin, si on a supposé à la fin, le modèle dise que les gens sont individualistes. Et donc il y a un problème intellectuel à ce niveau-là qui dit que si repolitiser l'enseignement, c'est justement reconnaître qu'il a un caractère politique. C'est pas donner une couleur politique, mais reconnaître qu'il a un caractère politique pour permettre à l'étudiant de faire, j'allais dire son marché, mais c'est pas ça, de faire en tout cas une distinction et faire des choix après en fonction de l'apport que ses profs ont pu lui donner. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut apprendre d'IND, c'est qu'au moins, en tout cas de ce programme-là, c'est qu'il avait l'ambition. Il n'avait pas l'ambition de se dire super neutre, non, c'était dans un cadre processus social plus large. Alors, pour terminer, ça va, je ne suis pas trop long.
Tout à fait, bien.
Super. Parce que pendant la chanson, il était un peu stressé.
Allez-y.
Ok. Non, mais je disais que vous étiez... Non, mais parfait, ok. Par rapport à l'actualité du projet d'IND, encore une fois, je le dis sans connaissance scientifique, c'est plus un ressenti. Ce que moi j'ai pu voir en travaillant avec les étudiants chiliens et en voyant, en essayant de faire des perspectives avec les luttes qu'on a ici en Europe, 40 ans après, il y a quand même deux grandes thématiques, enfin, il y a plusieurs grandes thématiques qui reviennent au centre des mouvements sociaux et de la politique au Chili. Donc après 17 ans de dictature et plus de 20 ans de démocratie, qui n'a pas en soi réussi à s'affranchir de son passé pinochiste, les grands sujets débattus par l'Union populaire sont au cœur des mouvements actuels. Comme par exemple, c'est un exemple je crois intéressant, à travers la revendication d'une éducation publique de qualité et gratuite qui a été très très, prédominante ces derniers temps au Chili, en fait les étudiants revendiquent la réinstauration des services publics, d'espaces publics, de réappropriation du social, etc. Et c'est intéressant parce qu'on voit que, par exemple, dans les récentes manifestations, la revendication de nationalisation, de renationalisation des ressources naturelles pour, par exemple, financer l'éducation et la santé, etc., c'était des revendications et des choses qu'a entamé d'ailleurs IND. Et donc, c'est vraiment dire ici, le mouvement étudiant n'est pas corporatiste, il s'insère dans le social et il accepte d'arriver avec des propositions qui permettraient à tous une vie meilleure et une vie prospère. C'est pourquoi on pourrait dire qu'aujourd'hui, AND est plus, en tout cas, l'unité populaire est plus que présente que jamais, surtout que le mouvement étudiant est, alors, il est très fort, mais il est aussi très fragmenté. Je pense que le challenge qui était de réussir à gouverner pendant 3 ans le Chili, et aujourd'hui, réussir à coordonner un mouvement étudiant qui est quand même divisé, même en étant très unis dans les grands fondamentaux, c'est un peu le même challenge qui relève aujourd'hui. La nouveauté, évidemment, c'est que maintenant, il y a une horrible constitution. Et donc voilà, la revendication de l'Assemblée constituante, etc., pour mettre fin à la constitution de Pinochet, qui est encore en vigueur d'ailleurs, c'est une nouvelle revendication. Mais c'est intéressant de voir à quel point maintenant des challenges vont refaire surface. Moi, j'aimerais bien m'endormir pendant 20 ans, même si j'ai envie de vivre aussi, et de regarder le Chili dans 20 ans, parce qu'il y a vraiment, une génération de jeunes qui veulent aussi se réapproprier la politique, la faire peut-être différemment. Je ne suis pas un spécialiste du tout de tout ce qui est relation entre les partis politiques et les mouvements sociaux. J'avais été au CITRI, c'était Franck, j'avais noté son nom, Gaudichaud, merci. Un chercheur français qui disait une chose intéressante, je me trompe peut-être, mais ce que j'avais compris en tout cas, c'est qu'à l'époque de l'unité populaire, les partis politiques avaient plus un côté d'impulseur au sein des mouvements sociaux. Donc ce n'était pas rare qu'une grande assemblée d'un syndicat, il y ait 20% qui soient de ce parti-là, 20% de ce parti-là, un autre 20% de parti-là. Aujourd'hui, pareil pour les mouvements étudiants, il y avait vraiment un côté d'impulsion. Aujourd'hui, au Chili, donc, il y a aussi une volonté, il y a beaucoup de division au sein du mouvement étudiant, d'avoir une forme de neutralité, enfin d'être indépendant des partis politiques. C'est-à-dire qu'on fait de la politique, mais on est apartisan, on n'est pas lié à un parti politique, etc. On veut se réapproprier le côté un peu autogestionnaire, autonome, etc. C'est sans jugement, parce que moi-même, j'aurais du mal à me situer, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a, une volonté d'être plus politique que jamais, sans forcément faire partie d'un parti, en rejetant les politiques partisanes traditionnelles appliquées aujourd'hui. C'est aussi le cas en Belgique aujourd'hui. Il y a une volonté. Le mouvement étudiant est très, très, très peu réceptif à des cas de mouvement étudiant qui seraient, en tout cas pendant leur mandat, avec une carte de parti. Ça crée des conflits interminables parce qu'on considère que le mouvement étudiant doit être autonome. La meilleure manière d'avoir des droits, d'obtenir des droits et de rendre l'enseignement plus démocratique et de meilleure qualité, c'est d'être sans étiquette, d'arriver à créer un rapport de force avec le nombre, avec les propositions, mais sans être lié à un parti politique. Et donc c'est très contemporain. Et donc, je me dis, c'est au parti politique, je ne sais pas, il faudrait vous faire une étude que je ne suis pas capable de faire, mais de voir un peu comment ça se fait qu'on arrive à. Aujourd'hui, c'est plus opposition et moins intégration qu'il y avait avant. Et une dernière chose sur laquelle je voulais terminer, c'est un débat qui est contemporain en Belgique et au Chili, évidemment, puisque maintenant, avec Bachelet qui va probablement gagner des élections, il y a des conflits au sein de la gauche, évidemment, comme Freddy l'a dit et Guy aussi. Il y a des conflits ancestraux, c'est comme ça. Pour ce qui est de l'éducation, ce qui est intéressant, ce n'est pas le caractère public, ça je crois que tout le monde est d'accord, le caractère de qualité aussi, même si on ne sait pas vraiment la définir, mais la qualité aussi. Et c'est le caractère gratuit qui pose plus de questions. C'est intéressant de le voir au niveau du Chili, parce qu'effectivement, il y a pas mal de différences entre les écoles secondaires, etc. Bon, on pourrait dire, oui, mais le fait que ça coûte pas cher, ou en tout cas beaucoup moins cher, voire gratuité, est-ce que ce n'est pas anti-redistributif? Parce que finalement, les gens qui vont à l'université, c'est des gens qui viennent généralement de classe moyenne, voire vers le haut, de gens qui ont eu accès à une bonne formation dans le secondaire. Est-ce que si on rend tout gratos, est-ce que ce n'est pas justement eux qui devraient payer est-ce que c'est une priorité de rendre l'éducation gratuite? Est-ce qu'on ne va pas plutôt faire, par exemple, un minerval progressif? C'est une idée qui fait son chemin ici aussi. On pourrait dire, voilà, est-ce que le fils d'ArcelorMittal, enfin, il n'étudie pas en Belgique, mais le fils de Didier Bellens, c'est ce qu'il devrait vraiment payer 800 euros, enfin, ou c'était gratuit, est-ce qu'il devrait vraiment rien payer du tout? C'est un peu scandaleux. On devrait le taxer beaucoup. Et puis, les gens qui viennent de classe populaire, les gens qui viennent de classe moyenne vers le bas, ils ne devraient rien payer. Et avec l'argent qu'on prendrait au fils de Didier Bellens, ou à Didier Bellens, du coup, on pourrait le réinvestir dans l'encadrement pour les étudiants les moins fortunés. Évidemment, c'est séduisant comme thèse, et moi-même, j'ai pris du temps à avoir un avis, mais ce qui est important, et c'est, je crois, dans l'idée d'unité populaire pour faire un lien, qui considérait l'enseignement comme un service public, à partir de ce moment-là, qui devait vraiment être accessible à tous, etc. Et quand les étudiants disent non, nous on veut une éducation gratuite, c'est pas parce qu'ils veulent pas que Didier Bellens ne paye pas d'impôts, c'est parce qu'en fait l'éducation n'est pas l'espace où on doit redistribuer. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un espace où on doit démocratiser, mais c'est pas un espace où les riches doivent payer plus et les pauvres payer moins. Ce serait une double imposition. Le problème, c'est que les impôts sont injustes au Chili et ils sont injustes en Belgique. Ça, c'est un grand truc qu'on a en commun. En Belgique, on est les champions pour très peu ou pas du tout taxer le capital. Effectivement, Nous, ce qu'on dit, quand on est étudiant, mais je ne le suis plus depuis 2 mois, mais ce qu'on disait, c'était fondamental, c'est que l'espace de redistribution doit être l'imposition. Il faut réfléchir à comment on taxe les entreprises, les particuliers, etc. Comment on rend la taxe sur le travail moins dure et on taxe sur le capital de manière beaucoup plus importante. Au Chili, c'est le grand enjeu. Comment on va faire une fiscalité, un impôt qui soit réellement juste, qui permette de taxer tous ces capitaux étrangers, etc., qui permettrait une politique sociale beaucoup plus intelligente. C'est pas au niveau de l'éducation qu'il faut le créer, parce que ça veut dire qu'on va se dédouaner au fur et à mesure. Nous, on va pas faire, on n'arrivera jamais à faire un bon impôt, et les riches diront, oui, mais nous, on paye déjà plus à l'université, on paye plus pour voir nos docteurs, on paye plus pour tout. Pourquoi est-ce qu'on paierait un impôt supérieur? Et donc, c'est important. Le combat est fiscal. Ça, c'est je pense, en Belgique aussi et partout. Le combat est fiscal. Le combat est la redistribution et la justice sociale qui permettra après d'avoir des services publics que personne ne remettra en question. Parce que moi, je suis ravi que Didier Bellens envoie son enfant à l'université s'il a payé pour 99 étudiants avant le sien, c'est parfait. Et donc c'est ça qui est intéressant au Chili, qui divise encore la gauche. On verra ce que Bachelet propose. Je pense qu'il faut réussir à s'attacher à ce concept d'une éducation, oui, qui ne range pas dans la sphère du marché, qui ne range pas dans la sphère d'un produit de consommation, mais qui réussisse en plus à créer de la solidarité entre les citoyens. C'est bientôt fini ?
Oui.
Alors je termine là-dessus. Et qui permettra aussi à créer un peu l'homme nouveau dont on parlait il y a 40 ans. Parce que je trouve ça fondamental, il faut réussir à créer une forme de réciprocité entre les citoyens. Si quelqu'un arrive à l'université pendant 5 ans, termine ses études, etc., il faut lui dire, parce que parfois on oublie de lui dire, il faut lui dire, gamin, les gens payent pour toi aujourd'hui. Hein. Tu es complètement, les gens payent pour toi, donc c'est l'impôt. Tu es débiteur, c'est-à-dire que j'ai fait l'économie, débiteur, ouais. Tu es débiteur, voilà, c'est, ouais.
Allez.
C'est bien, les sociologues, il faudrait plus de sociologues en économie. Soit, mais donc en gros, effectivement, c'est ça. On est débiteur, donc on a quand même, on doit quelque chose à la société, donc c'est pas forcément une bonne idée de partir et de faire des investissements dans les paradis fiscaux. Peut-être que les entrepreneurs qu'on arrivera à créer, je sais pas où est Solvay, mais c'est par là, s'ils ont conscience du fait que c'est la société qui investit en eux, peut-être deviendront-ils moins individualistes, moins enclins au profit à court terme. Donc c'est un espace, l'éducation au sens large doit être un espace où les gens comprennent qu'ils sont interdépendants et que si pendant 5 ans on a eu accès à un service public de ce type-là, on doit d'une manière ou d'une autre être solidaire et le redonner par la suite par l'impôt, par l'engagement en tant qu'entrepreneur social, en tant que peu importe quoi, mais entrepreneur de notre vie et de la société en général. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre et c'est vraiment là-dessus que je voulais terminer. Je crois que c'est plus actuel que jamais et je pense qu'effectivement une génération de jeunes au Chili, en Amérique latine et j'espère en Europe sont capables d'allier la justice sociale et la liberté comme c'était souligné par Guy et par Freddy. Merci beaucoup. Très bien.
Bien, merci beaucoup pour cette démonstration et cette intervention. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir et je suis certain que les réflexions sont déjà en cours sur le fait qu'en fait, que les héritiers de tout ce mouvement social initié sous l'unité populaire, et on s'est interrogé à de multiples reprises sur quel serait l'acteur social qui émergerait pour porter les revendications, je crois qu'il y a une réflexion à faire du côté des politologues sur le fait que, apparemment, l'héritier, le seul porteur héritier de tout ce mouvement social, c'est un nouvel acteur qui est le mouvement étudiant. Il y a là quand même quelque chose, une réflexion à se faire, c'est que les partis semblent avoir quand même s'être légèrement effacés derrière cet acteur social qui a fait drôlement parler de lui, qui est le mouvement étudiant. Il y a là quelque chose d'assez exceptionnel, mais je ne suis pas à même de porter plus loin. Et en tout cas, je remercie notre David Mendes-Yepes de cela. J'ai assez amusé, un petit truc détaillé, parce qu'on va ouvrir le débat. Hein. Il a commencé par saluer ses professeurs, il a terminé par dire Guy et Freddy, je vous a très bien. Bon, ceci est. Alors, nous avons 25 minutes de débat. Alors, sans perdre de temps, je donne la parole à qui la veut.
Ah. Je vais tout simplement remercier.
Levez-vous, comme ça tout le monde vous entendra. Mais oui, parce que si, on ne va pas jouer avec le micro, parce que sinon.
Je vais simplement dire à tous les organisateurs belges et à tous les intellectuels belges qui sont participés aujourd'hui et de nous avoir accompagnés dans cette trajectoire qui a été la nôtre. De la reconnaissance de ce trajet que nous avons fait pour pouvoir nous reconstruire. Et en même temps, de garder une lumière vivante des liens qui était pour moi un des plus grands utopistes de l'histoire. Et cette utopie, j'espère que les jeunes puissent la comprendre aussi, ce qui est très difficile dans le contexte actuel. C'est la seule chose que je voulais dire.
Merci beaucoup. Possible. Tant de sujets ont été soulevés, tant d'ouvertures.
On ne va pas discuter de ça pendant 20 minutes, c'est pas possible. C'est même pas le silence. Comment tu parles pas, oui,
voilà. Mets-toi à bord.
Tu parles par exemple, on parle qui, quel est l'acteur social qui va l'emprunter. On va discuter de ça pendant 20 minutes.
10 ans.
Alors, par exemple, on n'a pas touché à la transformation de la classe ouvrière. C'est un thème qu'on n'a pas touché. Les transformations des actions sociales, on n'a pas touché non plus. Il y a plein de choses qu'on n'a pas touchées. Le cœur, puisque l'unité populaire, vous avez amené, on est tous là à porter ça en nous. Il n'y a pas de discussion. Mais comment le rendre politiquement viable, ça reste... C'est pas nous qui allons d'ailleurs en discuter, ce sont les jeunes. Mais aussi, par exemple, déjà, le mouvement des indignés nous a montré ses limites. Alors, voilà, alors comment est-ce qu'il va, on va constamment reconstruire éternellement ce mouvement qui un jour va devoir être plus que, comme disait Walter Benjamin, un avertisseur d'incendie, mais plutôt celui ou celle qui va construire l'appareil politique qui va changer les lignes. Jusqu'aujourd'hui, on n'est nulle part. Depuis Hitler, on n'est nulle part. La gauche, soit social-démocrate, elle est devenue ce qu'elle était. Quand on pense que le parti d'Allende est un parti qui était dans l'international socialiste, quand on reprend l'international socialiste aujourd'hui, on a quand même énormément de questions à se poser. Voilà, donc, mais voilà, je suis de toute cette génération qui a compté ça en nous et qui est à la fin du trajet en se disant on va mourir probablement avec beaucoup plus de questions qu'avec des réponses.
Merci. Mais je voudrais quand même signaler que ceci peut servir peut-être d'interpellation aux intervenants de ce soir, puisque ce colloque se poursuit à l'IEX avec trois orateurs de poids, Juan Garcés, Sergio Gres et David Mendez. Donc je crois que là, ils ont entendu quelques interpellations qui pourraient peut-être nourrir leurs interventions de ce soir. Mais qui osent quand même parler malgré... le dédit de Amir. Personne? Bon, oui.
Vous permettez?
Oui, bien sûr.
Simplement de raconter quelque chose par
oui.
rapport à ce que notre jeune dirigeant étudiant a dit concernant l'université, l'éducation au Chili. J'ai 6 ans de ces étudiants. Et j'ai eu la chance. C'était un excellent manuel d'architecture. L'unité populaire, c'était déjà au gouvernement à Guillaume. Ensuite, les principes de pouvoir donner accès, non seulement à une question de revenus pour payer les minerais et tout ça, mais ils avaient ouvert les universités aux ouvriers. En architecture, j'avais des camarades de classe ouvriers de la construction du bâtiment. Et qui évidemment n'ont pas pu continuer leurs études, puisque le coup d'État, en revanche, on a donné énormément d'eux à ce qui est des questions pratiques. Qu'est-ce que c'est que vous demandez de vous? Comment est-ce que ça coulait? Combien de temps il fallait patienter avant d'imaginer qu'on pouvait mettre en cours une charte et tout ce type de choses? Et nous, c'était. Et ça a été une expérience que je n'ai jamais vue ailleurs.
Si. À Sciences Po à Bruges, à Paris. À Sciences Po à Paris, où on a ouvert des places pour les cas de cité. Mais enfin, bon, c'est très limité.
Non, mais je veux rajouter un petit truc. Oui. En fait, c'est super ce que vous venez de dire, parce que au-delà des gens des cités ou quoi, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est des gens qui travaillaient déjà. C'était plutôt des adultes qui revenaient à l'université. Dans la chanson, je ne sais pas si vous avez reconnu, donc il y a un troisième paragraphe, c'est. Para que los eduquen obreros campesinos tendrán. Non, c'est pas ça. Quatrième paragraphe. Pero no hay que conformarse solo con los niños chicos, o pas seulement donner cours de faire l'éducation pour les enfants plus jeunes, porque ahora educaremos a los que son mayorcitos. Donc on va aussi éduquer les gens qui sont plus âgés. Ça c'est génial parce que le concept que l'université est un espace populaire de rencontre, d'échange de savoir, etc., où il y a moins cette relation, je veux dire, très scolaire du professeur, etc., mais là que c'est un échange entre étudiants, ça c'est vraiment révolutionnaire. Et je pense que les architectes ou même les ingénieurs, quand ils auront l'humilité de voir ce que c'est le travail manuel, etc., ça fera des ingénieurs beaucoup moins, je veux dire, autoritaires ou, je veux dire, autoproclamés super ingénieurs et boss de leur boîte. Et par ailleurs, un technique, et surtout des jeunes, je pense, même des gens qui ont fait de la technique, ont travaillé comme ouvrier pendant 30 ans ou pendant 20 ans, peuvent aussi se reconvertir et apprendre un peu tout ce qui va être plus théorique. Et donc, on pourrait voir des conversions dans les deux sens. C'est une forme de démocratisation. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la formation continue, etc., formation avec des adultes, etc., ça a un aspect social intéressant aussi. Mais je pense que c'est intéressant d'arrêter de faire l'université de jour qu'avec des jeunes et l'université du soir, où effectivement on a des adultes qui viennent, mais en fait c'est deux mondes qui ne se connaissent pas, quoi. Donc là, c'est encore une chose à apprendre de l'université populaire.
Je suis convaincu que qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte qu'effectivement, le projet était en train de réussir. Les classes, toutes les classes étaient en train de se mélanger pour un mouvement dans un sens qui mettait en danger voilà, les intérêts des autres.
Il ne faut pas oublier non plus que moi, j'étais petite à l'époque. J'avais 10 ans, à peu près 11 ans quand j'ai été montée au gouvernement. Je me souviens, c'était l'importance de l'enseignement et de la culture. Ça a été une explosion au niveau de la littérature, des arts plastiques et des concerts. Je me souviens avoir vécu des moments d'extase musicale, de musique classique, je parle, en plein Santiago, en el Cerro San Cristóbal, la symphonie 1812 de Tchaïkovski, avec des gens du peuple, comme des gens très fortunés, qui étaient légèrement gênés de voir autant de populace autour d'eux. Et c'était, on pourrait s'en transposer ça ici, c'est un peu le début de la mixité. Mixité sociale, d'abord, et mixité, bon, pas des cultures, mais les gens qui habitaient à la campagne et qui habitaient à la ville, etc. Et je me rappelle que pour moi, ça a été quelque chose qui m'a marqué, comme les écoles, nous étions organisées. Au niveau des écoles primaires, je parle entre la première et la huitième année qui correspondrait plus ou moins à la sixième année, on avait des assemblées de classe et des centres d'élèves. Chose qui ici se fait un tout petit peu à l'école secondaire, plutôt à l'école primaire et qui existe dans les universités. Donc pour moi, ça a été un choc arriver ici après, voir qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucune préparation de la citoyenneté. Chose que pendant les années de la GND, avant, et plus ou moins après, on a continué, puisque moi je suis partie après à 77, donc 3 années après les États, on avait quand même pu faire survivre ces syndicats d'élèves, etc., autour de la solidarité, etc., et d'autres choses qu'on fait après. Mais donc, toute cette organisation faisait que la mixité et cet enseignement, cet apprentissage à la solidarité, faisait que les gens se sentaient partie prenante d'un processus. Et c'est ça qui a fait, je pense, la différence. C'est ce qui était parlé tout à l'heure, entre la distance entre le politique, les politiques représentatives, et le peuple. Au Chili, je me rappelle que les gens disaient, dans les relations, parce que moi j'habitais à un quartier très populaire, c'est notre gouvernement, c'est nous qui sommes le gouvernement. Et ça, on n'a plus jamais entendu d'ailleurs.
Oui.
Et je voulais parler simplement d'un aspect qui me semble, nous qui sommes les partisans de la société populaire, je dirais, dans les 6 aspects qui va jouer à la formation, il me semble qu'il y a un problème de sens et d'engagement, parce que finalement, on termine par une utopie avant-gardiste. Voilà, ça c'est le terme par lequel Guy a terminé son intervention. Il me semble que comment on peut oublier la partie de la vérité des actions. Les réels, les 40 mesures, l'application de ces 40 mesures. Le registre symbolique, c'était le discours, l'égalité, hein, la justice, mais c'était les actions. La première année, effectivement, on a eu des progrès dans tous les sens, mais après, on a marché sous les pieds des intérêts supranationaux. Et c'est ça qui commence à réagir la droite du Chili. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose de symbolique, mais aussi du réel. Donc, il y a... je ne suis pas d'accord avec les propos de Mme Montpellier, que ce soit le plus grand utopiste. Allende, il a lutté 40 ans, enfin, 4 périodes pour arriver au gouvernement.
Et c'est, mais là, n'empêche pas l'autre, monsieur, qui est utopiste.
Mais ce n'est pas une utopie parce qu'il est arrivé au pouvoir. Et c'est. Voilà, donc je voulais mettre un peu un grain de sel dans cette histoire parce que sinon, c'est édulcorant, c'est là
tout. Non,
pas du tout.
Voilà. Monsieur Bajois a quand même parlé des réalités. Hein? Non, non, ça a été réel. Non. Pas de déchirement de l'unité populaire ici, s'il vous plaît. Non, mais je crois que les deux discours ne sont pas antagonistes. Il n'y a pas d'accusation recevable.
Pas d'accusation. Les copies, c'était déjà tout ça, sachant que les États-Unis, les lendemains,
c'est ça. Il y a de
l'ordre de 3 registres, il n'y a pas qu'il le domine. Okay, il y a eu une réalité. Arrêtez, s'il vous plaît. Madame, oui.
Moi, je suis un peu gênée de prendre la parole de la partie de ces Chiliens qui ont toutes les raisons d'intervenir. C'est très, très important. Mais moi aussi, c'est très important. Mais je constate, en fait, je suis obligée de réaliser que cet échec partiel d'Allende montre que quand une révolution importante, une remise en cause totale d'un système s'effectue dans un pays seul, isolé, actuellement, eh bien, je me demande si ça peut réussir. Parce que le capitalisme a pris un tel pouvoir et a envahi le monde entier et est tellement puissant que toute révolution doit également être mondiale et être très puissante. Et je crois que si ce n'est pas mondial, ça pose effectivement de terribles problèmes d'organisation et de communication. Mais j'ai très peur et je suis pour ça pessimiste.
Qu'un
pays tout seul, ça peut marcher pendant quelques temps et puis
se
forcément
péter.
Voilà.
La révolution mondiale, il y a quelqu'un qui a dit ça avant. Encore une intervention? Bon, ben alors on va clôturer. Je voudrais. Ah non, il y a quelqu'un. Là, in extremis, vous voulez la parole.
L'ancien président.
De la FEF.
Et peut-être en rajeunissant un certain nombre d'entre nous, il y a 50 ans, un certain nombre d'entre nous ont été des animateurs du mouvement étudiant. Il s'appelait à l'époque le mouvement universitaire belge.
Le MUBEF.
Et ce mouvement avait considérablement politisé le mouvement étudiant.
Oui. Syndicat étudiant,
vrai salaire étudiant. Faut-il ou non reconnaître l'acceptation de la Chine aux Nations Unies? Que fait-on dans la décolonisation du Congo? Ça polarisait un certain nombre de débats particulièrement intenses entre nous, et ça ne gênait personne que dans ce débat interviennent les jeunes gardes socialistes ou les maoïstes, etc. Aujourd'hui, et à travers l'expérience
qui est la même entre
père et grand-père et enfant à l'université et dans l'enseignement, je suis interpellé par la remarque que vous avez faite de dire aujourd'hui, pour faire valoir un acteur social qui peut être le mouvement étudiant, c'est un handicap de revendiquer une affiliation commune. Et je pense qu'effectivement ça mérite, et vous l'avez dit en disant peut-être que les politologues devraient s'appesantir sur cette question, mais je pense aussi que le mouvement étudiant devrait s'appesantir sur la question parce que la réaction que je vois parmi les enfants et les petits-enfants, c'est de dire la politique, le mouvement étudiant ne porte guère de revendications de ce type-là, et quand j'entends politique, c'est pas politique partisane, hein, c'est des problèmes de société. Et là, peut-être que votre témoignage serait intéressant à travers l'expérience qui a été la vôtre et de l'engagement qui était le vôtre. Comment faire en sorte que cette génération d'étudiants, alors je ne vais pas citer les noms, il y en a certains, je dirais par exemple que celui qui calculait pour nous le coût du prêt salaire étudiant, certains s'en souviendront, c'est Guy Quaden qui est devenu gouverneur de la Banque nationale, c'est Jean Paul qui était, etc., etc., hein, je pourrais passer. Donc voilà, ma question c'est un peu celle-là. Dans le cas du mouvement étudiant, s'il voit, et il serait souhaitable qu'il devienne un acteur de changement, madame, ici comme ailleurs, parce que en renvoyant à la révolution mondiale, ça risque
de retarder un peu.
Mobiliser quelque peu en disant cet événement-là, il est pour la troisième génération après la nôtre. Voilà, c'est un peu ma question, et je sais que ça va nous.
Vous répondez très brièvement, hein, très brièvement.
Je vais devoir aller à l'essentiel, mais je suis ravi qu'on en discute plus tard, si vous voulez. En gros, donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, alors c'est peut-être que ça a changé, et c'est sociologique, je ne peux pas l'expliquer, pour réussir à mobiliser le plus grand nombre, c'est un handicap, ce n'est pas le meilleur mot, mais c'est intéressant que les représentants étudiants, en tout cas, je parle des quelques administrateurs qu'il y a, donc on est président, vice-président, quelque chose comme ça, n'aient pas de carte de parti quand ils le font. En tout cas, ils peuvent l'avoir, mais ne sont pas impliqués en jeunesse politique en même temps, parce que ça, malheureusement, ça crée des tensions au sein du mouvement étudiant. Alors, je crois avec vous que je préférerais que tous aient une carte s'ils veulent l'avoir et qu'on puisse être de manière plus, je veux dire, transparente ou pas, hein, mais en tout cas que ce soit pas un handicap. Aujourd'hui, ça l'est. Je prends un exemple. Vous étiez du MUBEF. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la VVS, qui est la Vlaams Vereniging van Studenten. Ça faisait des années qu'on l'avait plus faire. Pendant un an, on a beaucoup travaillé avec les Flamands. Là, c'est la culture du fait d'être apartisan est encore beaucoup plus grande. Là, c'était vraiment genre, le mouvement étudiant doit être apartisan, etc. Donc, du coup, il fallait, en tout cas, je veux dire, de manière impliquée, je veux dire, au quotidien, fortement, essayer que les cadres, en tout cas, les élus, ne mélangent pas les deux volets. Maintenant, sur l'aspect enjeu sociétal, je pense qu'on le fait. Peut-être que c'est moins visible qu'avant, parce qu'il y a peut-être une émulation qui est différente, que la société individualiste a créé un morcellement du mouvement des jeunes, je ne sais pas. Mais par exemple, aujourd'hui, ben, nous, il faudra mobiliser sur la question israélo-palestinienne, sur le boycott des universités, le gel des universités palestiniennes. On est le premier syndicat national à avoir voté pour un gel temporaire des relations avec les universités israéliennes. On l'a fait comme d'autres facultés, mais on est le premier syndicat européen à l'avoir fait. On travaille beaucoup au niveau du syndicat des étudiants européens sur plein d'enjeux sociétaux, sur la question de l'austérité, etc. Donc le mouvement étudiant est politique, mais j'ai l'impression que malheureusement, parce que cette crise crée des individus malheureusement individualistes, parce que le discours politique est celui-là, est celui de la compétitivité, la concurrence, etc. C'est moins, le terreau est moins propice, j'ai l'impression, qu'on va vers les étudiants, qu'on parle de choses politiquement, je veux dire, des enjeux grands, sociétaux, etc., et qu'on ne parle pas plutôt d'encadrement ou de démocratisation, eh ben, malheureusement, ça passe moins bien. Donc on arrive à venir avec choses en parlant vraiment de l'éducation en tant que droit, etc., de problème d'encadrement, tout ce qui peut être d'accès, etc., du coût du logement, machin. C'est plus facile d'avoir des gens comme ça en mouvement étudiant et après s'attarder sur des positions parce qu'on a des centaines de positions. Je vous invite à aller voir notre site avec des positions sur tous les enjeux sociétaux, etc. On a soutenu des mouvements étudiants partout, des mouvements des sandinistes, enfin, je veux dire, il y a des très vieux trucs qui sont même un peu loufoques. Le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la meilleure manière de politiser, en tout cas, les étudiants, c'est de commencer par des enjeux qui sont des injustices qui vivent au quotidien dans leurs universités. Et après, on peut glisser vers les enjeux sociétaux, qu'ils soient israéliens ou peu importe, l'austérité, etc. On le fait aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas notre ligne communicatrice comme était le MUBEF par an.
Merci, on va achever. Donc, je voudrais simplement, et Anne vous fera une communication technique en finale, qui intéressera tout le monde. Je voudrais simplement dire que grâce à vous tous, nous avons fait résonner dans cette université un événement pour lequel elle s'était largement mobilisée, je rappelle les efforts du Collage ici, dans l'accueil justement des étudiants chiliens et des Chiliens en général. Dans cette université qui avait tellement bien vibré à l'époque d'Allende et surtout par la suite pour l'accueil, nous avons rappelé, grâce à vous tous ici aujourd'hui, cet événement fondamental qui serait malheureusement, qui serait passé sous silence si nous n'avions pas relevé ce flambeau grâce à vous et votre présence nombreuse. Anne, le mot de la fin.
Oui, grâce notamment à l'initiative de Jorge Magazine qui a été le stimulant de cette journée. Alors je voulais simplement... Oui,
les étudiants qui demandent la révolution, est-ce que c'était pas proche?
Oui, je pense. Cette belle initiative à laquelle nous avons participé avec enthousiasme. Alors, si vous nous avez laissé d'une manière ou d'une autre votre adresse, on vous expliquera d'ici peu comment accéder à l'enregistrement de la journée.
et pour la diffuser autour de vous, auprès de personnes qui n'auraient pas pu venir ici. Et d'autre part, dans prochaines activités, eh bien, pour le Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches, nous avions fait cette année une exposition d'affiches communistes qui a été présentée ici à l'université, qui s'appelle « Regards militants sur le XXe siècle ». Cette exposition, nous la présentons à Liège le mois prochain, avec une série de conférences et d'activités. Et d'autre part, en 2014, nous allons organiser ici un colloque sur un événement, le centenaire d'un événement qui, pour le mouvement socialiste dans le sens large du terme, a eu beaucoup d'importance. Ce sera un colloque qui s'appellera sans doute « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?» Et donc je vous donne déjà rendez-vous vers la fin du printemps 2014 pour notre prochain colloque. Merci à tous de votre présence.